La SLN met en sommeil son activité sur Thio, une décision de la direction en raison des blocages persistants et des destructions de ses installations. Les salariés devraient être pris en charge par le chômage total exaction. L'éducation nationale rend hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. Des cérémonies sont organisées pour saluer la mémoire de ces deux professeurs assassinés par des terroristes à 3 ans d'intervalle. L'actualité internationale, 4 soldats israéliens tués dans une base près de Haïfa. Le Hezbollah revendique l'attaque, l'organisation chiite qui dit avoir lancé des roquettes. Un océan de connaissances, c'est le thème de la fête de la science qui se tiendra du 18 au 28 octobre prochain sur le territoire. Une centaine d'événements organisés essentiellement dans le Grand Nouméa. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité ce midi, un coup d'œil au Mag des sports qu'on retrouvera à la fin de ce journal. Avec tout d'abord du football et même absent, tous les regards sont tournés vers Mbappé, Mickaël Gineski.
Alors que les tricolores poursuivent leur campagne en Ligue des Nations avec un rendez-vous demain contre la Belgique, c'est la photo de Mbappé en boîte de nuit à Stockholm qui agite le monde du ballon rond français, le capitaine des Bleus étant absent des matchs du moment et qui fait donc de l'ombre aux tricolores. De quoi agacé Didier Deschamps qui préfère se concentrer sur la confrontation de demain face aux Belges.
Et en tennis, comme un air de passation de pouvoir au Masters 1000 de Shanghai.
Le roi Djokovic qui s'incline face au prince Sinner. Le nouveau numéro 1 mondial s'est imposé à la Djoko contre le Serbe en finale de ce majeur en 2-7. Et Djokovic, malgré sa médaille d'or olympique, qui n'a remporté aucun titre cette saison sur le circuit ATP, une première depuis 2006.
Et puis en Nouvelle-Calédonie, nous parlerons de l'actualité du volley avec nos invités.
Une discipline qui prend la balle au rebond après une année gâchée par les émeutes. La nouvelle équipe dirigeante monte au filet et veut aller de l'avant. Nous recevrons son nouveau président Moïse Kalemou ainsi qu'Harmonie Connue, également membre du bureau de la Ligue.
Rendez-vous donc à la fin de ce journal. L'actualité économique et la SLN qui met en sommeil le site de Thio, une décision prise en raison des blocages qui persistent depuis le mois d'avril, mais aussi d'un nombre important d'exactions sur le site, Mickaël.
Après 6 mois et sans perspective de reprise de l'activité, l'industriel engage la procédure de mise en sommeil. La SLN ne veut toujours pas accéder au site qui a été vandalisé à de multiples reprises. Il y a eu beaucoup de vols et des destructions d'équipements par incendie, des exactions qui ont touché les ateliers, les bureaux administratifs, les laboratoires ou encore les villas des employés, sans oublier les engins comme les pelles, les camions, sans compter les blocages, les agressions verbales, les menaces et les intrusions répétées sur les installations. La semaine dernière, la SLN a informé l'ensemble des partenaires sociaux et les institutions de cette procédure. Jusque-là, les salariés étaient pris en charge au titre du chômage partiel, qui était assuré jusqu'à samedi. La mise en sommeil du site vise, selon un communiqué interne de la direction, à leur permettre de bénéficier du chômage total exaction. Et puis à Kouaoua, la SLN a pu remonter sur site. Elle effectue d'ailleurs des travaux de sécurisation sur la serpentine. Selon nos informations, les dégâts sur le convoyeur sont estimés à 1 milliard de francs. L'activité du site va donc devoir reprendre avec du roulage pour descendre le minerai vers la mer.
Et j'ajoute qu'en raison de ces travaux sur la serpentine, la circulation est perturbée sur la route municipale numéro 7 à Kouaoua. Venons-en maintenant à l'actualité politique et votre rendez-vous du lundi, c'est la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Aux grands mots, les grands remèdes. Pour permettre la libre circulation sur les 5 km de route qui traversent la tribu de Saint-Louis et désenclaver les 12 000 habitants du Mont d'Orsud et de Yatté, c'est un dispositif de sécurité tout à fait exceptionnel qui est expérimenté depuis une semaine. Il mobilise quelque 200 gendarmes pour sécuriser le passage de convois de 30 véhicules qui sont accompagnés de 3 véhicules de protection de la gendarmerie avec tous les 500 mètres le positionnement de centaures, les fameux véhicules blindés de la gendarmerie. Excusé du peu. Et encore, malgré ce déploiement hors norme, il y a encore quelques ratés puisqu'un automobiliste a été caillassé hier sur la RP1. Mais on imagine qu'à l'impossible, nul n'est tenu et que malgré cette sécurisation, il faudra encore du temps pour faire comprendre aux jeunes délinquants de la tribu que ce n'est pas bien de jeter des cailloux. C'est une question d'éducation et il y a du travail à faire. Les plus dangereux, ceux qui tiraient à l'arme lourde sur les gendarmes et qui attaquaient les automobilistes pour leur voler leur voiture, semblent avoir été mis hors d'état de nuire. Et c'est déjà une avancée sensible. Les habitants du sud de la Grande Terre se sentent désormais un peu plus libres, un peu moins abandonnés. Tout n'est pas réglé pour autant et prudemment, 5 mois après le déclenchement des violences insurrectionnelles du 13 mai, le haut-commissaire parle de désescalade, pas encore de retour à la paix. C'est la vision qu'aura le nouveau ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, qui nous réserve sa première visite depuis sa nomination rue Oudinot. Et pour cause, il a choisi le territoire dont la situation nécessitait le plus d'attention de l'État. Au train où ça va, il va aussi devoir bientôt aller éteindre le feu à la Martinique, en espérant que cette fièvre déstabilisatrice ne gagne pas tous les Outre-mer. Sinon, il ne saura bientôt plus où donner de la tête. C'est en Calédonie qu'il vient donc en premier, et il trouvera un territoire exsangue, dévasté, meurtri, et qui commence à peine à panser ses plaies. Dans ce contexte, venir parler de reconstruction, c'est faire preuve d'un bel optimisme. Mais François-Noël Buffet promet des réponses rapides et pragmatiques, et c'est clairement ce dont nous avons besoin. Et aussi, des garanties que la Calédonie ne sera pas oubliée, malgré l'état apocalyptique des finances publiques nationales. On comprend que tout le monde doit faire des efforts, mais les Calédoniens n'ont plus vraiment la capacité d'en faire. Le ministre chargé des Outre-mer vient aussi expliciter l'annonce du Premier ministre de reporter les élections provinciales à 2025. C'est fou ce que l'on a besoin d'expliciter ces derniers temps. Et Michel Barnier vient à peine d'expliciter la nécessité de modifier le corps électoral. Globalement, tout le monde est favorable au report des provinciales, tant on voit mal organiser d'ici décembre une campagne électorale et un scrutin, alors que l'on ne peut pas encore circuler partout sur le territoire et alors que l'on se souvient des irrégularités qui ont émaillé les élections législatives. D'accord pour différer les provinciales donc, mais de report en report, on va tout de même avoir la mandature la plus longue de l'accord de Nouméa, et cela va commencer, quoi qu'on en dise, à poser un problème de légitimité. D'autant plus qu'il s'agit d'engager les discussions sur l'avenir institutionnel, et l'on se demande qui pourrait être valablement autour de la table, sachant que plusieurs de ces élus se sont discrédités en soutenant ou en ne condamnant pas les exactions de la CCAT. Seront-ils légitimes pour négocier au nom des Calédoniens au seul prétexte qu'ils ont été élus en mai 2019, c'est-à-dire en un autre temps, bien avant ce déferlement de violence et de haine qu'ils ont parfois validé? Ça aussi, il va falloir l'expliciter.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver en podcast, notamment sur notre site internet le www.rrb.nc, à réécouter également à 16h cet après-midi sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. La Nouvelle-Calédonie qui fait face aux ingérences étrangères. Pour en parler, Sébastien Van den Dyck, le directeur de cabinet de la présidente de la province sud et spécialiste en relations internationales, qui était votre invité ce matin à 7h30, Elisabeth.
L'occasion de revenir sur un récent courrier adressé par Stéphane Séjourné à Sonia Backès, après que celle-ci l'ait alerté sur les risques d'ingérences étrangères en Nouvelle-Calédonie. Cela concerne d'abord l'Azerbaïdjan. Et Stéphane Séjourné, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, lui répond que, comme elle le souligne à juste titre, l'Azerbaïdjan a cherché à jouer un rôle en attisant les tensions en Nouvelle-Calédonie au mépris de la souveraineté française. En fait, de plus en plus, on a des preuves aujourd'hui de l'ingérence de l'Azerbaïdjan et de son influence dans les émeutes de mai dernier. Stéphane Séjourné parle dans son courrier de manœuvres informationnelles qui reposent sur des modes opératoires similaires aux méthodes russes. Les précisions de Bastien Van den Dyck.
Oui, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan a copié ce que les Russes ont fait, notamment en Afrique subsaharienne, pour déloger les Français, pour critiquer l'action de la France. On l'a vu au Burkina Faso, au Mali. C'est souvent la même chose, c'est-à-dire l'utilisation de fake news, de fausses informations sur le fait que l'État abuserait des ressources premières sur ces territoires ou mettrait en place des politiques publiques discriminatoires, ce qui n'est bien évidemment pas vrai. Et l'Azerbaïdjan a réutilisé ces méthodes, beaucoup de désinformations, et les a calquées à la Nouvelle Calédonie, mais les calques également aux autres territoires ultramarins français.
Des méthodes de déstabilisation à l'encontre des intérêts français, et la Nouvelle-Calédonie n'est pas la seule concernée. On peut le voir par exemple avec ce qui se passe actuellement à la Martinique.
Aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Martinique. C'est quand même très similaire à ce qui s'est passé chez nous lors du 13 mai. On a des revendications prétextes. Chez nous, c'était le dégel du corps électoral. Là-bas, c'est la vie chère. Et derrière ça, les personnes qui dirigent ces manifestations, voire ces émeutes, sont en fait des indépendantistes qui utilisent des modes opératoires extrêmement violents, des barrages, des incendies comme nous, on a connu.
Et puis, autre domaine dans lequel on peut craindre des ingérences étrangères, c'est dans le Pacifique, avec la mission du Forum des îles du Pacifique, qui est attendue à la fin du mois d'octobre. Là aussi, la présidente de la province sud avait attiré l'attention du ministre des Affaires étrangères sur le risque d'une telle mission qui, à l'origine, voulait effectuer une médiation sur le territoire.
Ça fait plusieurs années que le Forum des îles du Pacifique, qui a déjà une philosophie très proche des indépendantistes, n'entend que les indépendantistes. Et puis il y avait un autre sujet, c'est que les ambassadeurs qui avaient été identifiés par le Forum des îles du Pacifique pour venir en Nouvelle-Calédonie nous posaient problème. On a parlé du Premier ministre des îles Cook, qui est un défenseur de l'indépendance association, le Premier ministre des Tonga, pays dont 60% de la dette est détenue par la Chine, Premier ministre des îles Fidji, qui est arrivé au pouvoir dans les années 80 suite à un coup d'État, à la suite duquel il a mis en place un grand nombre de dispositions discriminatoires contre les populations non mélanésiennes aux Fidji. Et puis le Premier ministre des îles Salomon, qui est la cheville manœuvrière du rapprochement de la Chine dans la région. Donc ça nous a beaucoup inquiétés. Donc effectivement, on est très regardant sur ce qui va se passer. Et donc il est certain que ce n'est pas au Forum des îles du Pacifique d'entretenir une mission de dialogue ici. Et six missions d'observation, il faut que cette mission soit très bien encadrée.
Une interview de Bastien Van Den Dyck, directeur de cabinet de la présidente de la province sud et spécialiste en relations internationales, à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, 11h41.
Le marché de la démolition suscite un certain nombre d'interrogations. Il est énorme, hein, alors que plusieurs infrastructures ou entreprises ont été brûlées, détruites ou saccagées, et qu'il faut démolir avant de reconstruire, Elisabeth.
Mais il y a beaucoup de questions. Qui peut reconstruire ? Peut-on s'improviser démolisseur ? Ou est-ce vraiment une spécialité ? Et à qui vont les marchés ? Il y a, vous le savez, une polémique naissante sur l'attribution de ces marchés de la démolition qui serait préemptée par certaines grosses entreprises. Nous avons fait le point avec Philippe Blaise, le premier vice-président de la province sud, qui suit ce dossier.
Effectivement, on entend régulièrement des gens se plaindre que dans les marchés de déconstruction, il n'y a pas assez de répartition de cette activité entre les petits et les gros. Je voudrais juste lever en fait une incompréhension. Ce n'est pas la province sud qui gère ces marchés, ce ne sont pas des marchés publics de la province sud. La province sud, elle a un rôle réglementaire, elle a encadré la gestion de ces déchets issus des émeutes du 13 mai pour qu'on ne jette pas ces déchets n'importe où. Mais ceux qui passent commande, qui donnent du travail, ce sont en fait les privés. Ce sont les entreprises qui déconstruisent leurs bâtiments qui malheureusement ont été brûlés par les terroristes de la CCAT, donc soit sur leurs fonds propres, soit avec les indemnités des assurances. Donc nous, la province, nous n'avons aucune légitimité pour leur imposer quoi que ce soit sur la façon dont ils attribuent ces marchés. On peut sensibiliser le monde économique à cette question parce que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, la question du soutien aux petites entreprises et du maintien de l'emploi.
Mais outre la démolition ou la déconstruction, il y a un autre sujet, celui de la gestion des milliers de carcasses qui ont été enlevées par les forces de l'ordre quand elles ont déblayé les routes. Il va y avoir un marché pour le traitement de ces carcasses, précise Philippe Blaise.
L'État, sur un budget exceptionnel, a nettoyé les rues, a récupéré des milliers de carcasses et va se poser la question de ce qu'on fait de ces déchets qui sont entreposés sur un terrain qui nous appartient, nous, la province sud, sur le remblai de la baie de Kutukuta. Je tenais à dire que même si nous n'avons pas, nous, la main sur ces marchés des constructions, on est très sensible à cette problématique. Et on va avoir cette semaine des rencontres importantes avec le gouvernement, avec l'État, puisqu'il y a, vous savez, la présentation du plan S2R. Et je crois que c'est un sujet qu'il va falloir qu'on évoque, parce qu'effectivement, c'est très important que dans le soutien à l'économie, à la lutte contre le chômage, on n'oublie personne. Les gros, mais les petits aussi.
Et la province, de son côté, gère la question environnementale qui est fondamentale dans ce type de dossier.
Selon l'accord Nouméa, la loi organique, ce sont les provinces qui sont compétentes en matière d'environnement. Et donc c'est nous qui portons, au travers du Code de l'environnement et de la réglementation des déchets, cette compétence. Et donc effectivement, on a pris des textes pour s'assurer que tous ces déchets exceptionnels, hein, où il peut y avoir des produits plus ou moins toxiques, ne soient pas jetés dans la nature. Donc il y a des dispositions qui ont été prises avec les Gadji, il y a des questionnements sur l'export des déchets toxiques. Enfin, tout ça est suivi très près par nos services. Mais encore une fois, nous, notre rôle, c'est de fixer les règles du jeu. Après, tout ce qui relève des marchés, ce sont des marchés privés. Donc ça, c'est un débat, c'est une discussion qui doit avoir lieu entre les acteurs du privé, sous l'égide des organisations patronales, sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie. Mais évidemment, nous, on va faire avancer cette question, hein, on va la mettre sur la table, parce qu'on est très préoccupé par ces questions-là. C'est pour ça que la province, qui est le plus gros investisseur public depuis plusieurs années, loin devant le gouvernement, est très préoccupée de maintenir sa capacité à investir, et donc fait les efforts financiers en ce sens, parce qu'on a une responsabilité pour aider les entreprises à survivre.
Voilà les précisions de Philippe Blaise, le premier vice-président de la province sud.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. 5 mois après le 13 mai, le début des violences insurrectionnelles, pensez-vous que l'on a atteint le retour à la normale ? Si vous pensez que l'on en est au retour à la normale, Alors vous tapez 1 si vous pensez que ce n'est pas encore le cas. Vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. En bref, enfin, sur le front des feux de brousse, les pompiers de la zone VKP sont actuellement mobilisés pour un incendie qui a débuté à Connay. La cause serait un feu domestique mal maîtrisé dans la végétation. Les flammes se sont rapidement propagées. Les soldats du feu sont actuellement sur place. Et puis à Nouméa, des feux ont été déclenchés ce matin vers 9h sur le terrain de foot de la Vallée du Tir. Les flammes ont rapidement pu être éteintes par les pompiers, mais la pratique du sport ne pourra plus se faire sur ce terrain pendant plusieurs semaines. Près d'un quart de la pelouse du terrain du côté de la voie express a en effet brûlé. Il est 11h45, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on marque une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde, avec notamment ses hommages pour Dominique Bernard, mais aussi Samuel Paty en métropole.
Toute l'info en trois lettres, RRB. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
Et à la une de l'actualité en métropole, cet hommage à Dominique Bernard à Arras. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage à ce professeur tué au couteau il y a un an, jour pour jour, par un terroriste islamiste. Une cérémonie sobre et artistique à l'image de Dominique Bernard.
Je pense que ça lui ressemblait. Et voilà, je le connais pas, mais je suis sûr que ça lui ressemblait, ça.
Son appétence, son amour des arts et des lettres, on était dedans, quoi.
Forcément, ça remémore les souvenirs.
Moi, je suis touchée de voir beaucoup de jeunes aussi, beaucoup de lycéens. Je suis fille d'enseignante, famille d'enseignants. Et cet hommage était vraiment magnifique pour Dominique Bernard, mais aussi pour toutes les victimes du terrorisme.
La France est une terre qui accueille tout le monde. Elle a été toujours la mère de toutes les nations. Laissez-nous vivre en paix.
Espérons qu'on arrive un jour à se faire comprendre, qu'on a le droit tous de ne croire ou de ne pas croire, mais que l'on puisse respecter les uns les autres dans la tolérance.
Et avant de quitter cette place des héros, le public a pu déposer des roses blanches devant une stèle dédiée aux victimes du terrorisme. Et un an après l'assassinat de Dominique Bernard, les enquêteurs se concentrent désormais sur le profil du terroriste ainsi qu'à sa famille. Maxime Gondelot pour Europe 1.
Mohamed Mogouchkov, 21 ans, originaire de Nazran en Ingouchie, est incarcéré depuis un an. Il fait l'objet d'une mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Et selon la dernière expertise psychologique que se sont procurés nos confrères de France Info, il ne fait preuve d'aucune remise en question sur son passage à l'acte. Il n'est pas le seul de sa famille à avoir été arrêté dans cette affaire. Son frère cadet est accusé de complicité d'assassinat pour lui avoir notamment montré comment manier un couteau. Leur cousin, 16 ans, est poursuivi pour abstention volontaire d'empêcher un crime. La famille Mogouchkov est arrivée en France en 2008. Elle est placée sous OQTF depuis 2014. Mais seul le père, fiché S, a été expulsé il y a 6 ans du territoire français. Quant au frère aîné, il purge actuellement une peine de 5 ans de prison pour ne pas avoir dénoncé un projet d'attentat aux abords de l'Élysée. Il n'aurait aucun lien cependant avec le décès de Dominique Bernard, selon les enquêteurs.
Maxime Gondelot pour Europe 1. J'ajoute qu'une minute de silence sera observée partout en France, dans les collèges et les lycées, à la mémoire de Dominique Bernard, mais aussi de Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020. Un hommage également aura lieu spécialement demain à Conflans-Sainte-Honorine. Michel Barnier, le Premier ministre, se rendra dans cette commune toujours marquée par ce drame. Le reportage avec les habitants, signé Geoffrey Branger pour Europe 1.
À quelques pas du collège du Bois d'Aulne, qui devrait être officiellement renommé Samuel Paty, le 18 octobre, Fabien se balade en famille. Pour lui, ce nouvel hommage est très important, c'est même un devoir de mémoire.
Il faut que les jeunes, même tout petits, puissent comprendre que c'est un acte qui est odieux et qui n'a pas sa place dans notre société. Il faut que ce soit cité, montré en exemple aux petits. Il faut se souvenir.
Mais à Conflans-Sainte-Honorine, certains souhaitent surtout que le nécessaire soit fait pour que cette tragédie ne se reproduise pas, comme Michel, 78 ans.
Les hommages, c'est bien, mais il faut des actes, il faut que ça s'arrête, tout ça. J'attends des sanctions, de la fermeté. parce que c'est inadmissible ce qui s'est passé. C'est pas très très bien parti. Hein. On voit ce qui se passe dans les collèges, dans les lycées. Personnellement, je trouve que c'est dramatique. Il faut sauvegarder la laïcité. Il faut un gouvernement qui soit à la hauteur.
Une chose est sûre, ici, tous attendent le 12 novembre, date du début du procès pour les 8 adultes mis en cause dans le meurtre de Samuel Paty. Rappelons que l'assassin, un Tchétchène de 18 ans, a lui été abattu quelques minutes après les faits.
Et l'hommage aura lieu la nuit prochaine en métropole. En Nouvelle-Calédonie, en raison des vacances scolaires, les élèves se retrouveront pour une minute de silence la semaine prochaine, lundi ou mardi, au choix des établissements. L'actualité à l'étranger, un homme lourdement armé alors qu'il tentait d'entrer dans un meeting de Donald Trump. Ça s'est passé à Coachella samedi. Le suspect a été stoppé par la police à un contrôle avant d'entrer sur le parking. Il disposait vraisemblablement d'un faux passe-presse. Le shérif estime qu'il s'agit possiblement d'une nouvelle tentative d'assassinat déjouée contre l'ancien président américain et candidat à la Maison-Blanche. Toujours dans l'actualité à l'étranger, Israël sommet de s'expliquer. La FINUL, la force de l'ONU au Liban, accuse Tsahal d'avoir fait entrer deux chars dans ses positions au sud du pays, ce qui constitue une violation du droit international. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies affirme que des attaques contre des casques bleus de l'ONU peuvent être constitutives de crimes de guerre. Le secrétaire général répète que les membres des forces intermédiaires de l'ONU au Liban ne doivent jamais être pris pour cible. Une déclaration alors que les combats font rage dans le secteur entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Au Liban, la population cherche même à fuir le pays en direction de la Syrie. Le reportage d'Inès Gilles pour Europoint, au point de passage entre les deux pays.
Au poste frontière de Masnaa, dans la Beka, les soldats libanais enregistrent le flot de départ. Sur le chemin de l'exil, les voitures doivent s'arrêter sur le bas-côté. La route est impraticable. Le 4 octobre, l'armée israélienne a détruit ce passage reliant le Liban et la Syrie, disant avoir visé un tunnel du Hezbollah. Le bombardement a créé un immense cratère. Les réfugiés continuent d'emprunter Masnaa, valise sur l'épaule, l'air hagard. Ils traversent désormais à pied. Parmi les centaines de personnes ce jour, beaucoup sont libanais. Menacés par les bombes israéliennes, ils veulent trouver refuge en Syrie jusqu'à la fin de la guerre. Comme Khaled, sa famille va se réfugier à Damas.
Le Liban, c'est dangereux. Ma mère, ma femme, ma sœur et ma fille partent. Moi, je reste, je dois travailler, j'ai besoin d'argent.
Les deux tiers des réfugiés qui passent par Masnaa sont syriens. Après des années d'exil, ils retournent dans leur pays qu'ils avaient quitté à cause de la guerre. Certains, la peur au ventre. Ils craignent la répression du régime al-Assad, comme Asma, syrienne originaire d'Idlib.
Le gouvernement syrien, ça fait peur. Il risque de prendre mon mari pour l'obliger à faire le service militaire. Mais bon, nos enfants ont peur au Liban.
Selon l'Agence des Nations Unies, pour les réfugiés, il serait encore 800 000 Syriens au Liban, déterminés à rester malgré les bombes israéliennes, par crainte du régime de Damas. Masnaa, Inès Gilles, Europe 1.
Et j'ajoute que de son côté, le président français Emmanuel Macron a appelé son homologue iranien à soutenir une désescalade générale dans la bande de Gaza et au Liban, où le Hezbollah pro-iranien poursuit donc son combat contre l'armée israélienne. Il est 11h53, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, et notamment la fête de la science qui s'organise, ce sera du 18 au 28 octobre.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout-petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va. Le Pizza & Pasta a le plaisir de reprendre son service à table. Un vaste choix de pizza, pâtes, risotto, pièces de viande et desserts. Le Pizza & Pasta Takeaway est toujours disponible. Nous avons hâte de vous retrouver. Pizza & Pasta, 24 30 70. Plus d'infos sur notre page Facebook Pizza & Pasta.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Infomag avec le reste de l'actualité sur le territoire. On retrouve Nicolas Legrand.
10 jours pour devenir un scientifique en herbe avec la fête de la science organisée en Nouvelle-Calédonie du 18 au 28 octobre. C'est possible. Le thème cette année, ce sera Océan de savoir. Une thématique d'autant plus parlante sur le territoire, Léana Colombo.
Après le réchauffement climatique l'année dernière, place désormais à l'océan et ses enjeux en Calédonie. Les curieux de 7 à 77 ans pourront profiter d'une centaine d'activités et aller à la rencontre des chercheurs, médecins ou encore associés. Organisée notamment sur le territoire par le Cressica, cet événement scientifique gratuit se veut cette année plus proche des Calédoniens. Car oui, à contexte exceptionnel, édition exceptionnelle, résume Catherine Rice, la présidente du Cressica.
On est dans une année bien particulière pour la Nouvelle-Calédonie. Il nous semblait tout à fait important pour nous, Chrysica, de prévoir une édition qui soit en résonance avec ce que vit actuellement la Nouvelle-Calédonie. C'est la raison pour laquelle on a choisi à la fois de multiplier les lieux sur lesquels vont pouvoir se dérouler ces événements en étant essentiellement ce qu'on appelle hors les murs, c'est-à-dire on sort de l'université, on sort des laboratoires pour aller rencontrer le public dans ses lieux de vie, ses lieux de passage où il est, et puis aussi pour aborder la science dans une démarche participative. On a cette année une édition avec une programmation qui est absolument exceptionnelle. C'est plus de 100 événements qui sont proposés sur 10 jours. Il y en a tous les jours, il y en a pour tous les goûts, de toute nature, qui mobilisent beaucoup de monde. On est allé chercher les intervenants, ils ont répondu présent et je les remercie beaucoup parce que c'est un grand travail de partenariat.
La plupart des événements sera proposé sur le Grand Nouméa, mais il sera possible de participer à la Fête de la Science en province nord ou dans les îles. Et pour cette édition un peu particulière, c'est le champion du monde stand-up paddle, Titouan Puyot, qui a été désigné ambassadeur, un rôle bien particulier que l'ancien sportif a à cœur de défendre.
Ils ont besoin de quelqu'un, entre guillemets, pour faire le lien entre le public et ce monde scientifique. On est consommateur, c'est moche, mais c'est vrai, on est tous les jours sur l'eau, on a besoin d'aller sur l'eau, on a cette envie et on voit des choses et du coup d'échanger comme ça avec le monde scientifique, de connaître les causes, de leur rapporter aussi ce qu'on voit. C'est intéressant. Et puis au-delà de ça, d'aller rencontrer le public, les jeunes. Ces jeunes qui sont maintenant demandeurs en fait de ce qui se passe, parce que ce qui se passe maintenant, il est réel, il est palpable, on peut le voir. C'est la montée de l'eau, elle est facile à montrer maintenant à un jeune. On a des arbres qui sont dans l'eau, un corail qui est blanc, c'est facile aussi à montrer à un jeune. Donc je pense qu'ils sont plus à même de comprendre ce qui se passe, donc plus à même aussi de le protéger. Et on le voit, les enfants, ils sont carrément plus calés que nos générations. Peut-être j'ai que 30 et quelques années, mais on voit déjà une différence et ça fait plaisir, c'est assez motivant. Ouais.
Parmi les événements phares à retrouver, on citera une matinée découverte à la baie des Citrons avec les résidents de la maison Gabriel Poédy vendredi 25 octobre, une matinée découverte des coraux à la maison de la biodiversité ce samedi ou encore une journée présentation des métiers de la santé la semaine prochaine. Le programme est à retrouver sur le site internet du Chrysica et ce sera également l'occasion de fêter les 10 ans d'existence du consortium mais aussi les 40 ans de l'Ifremer.
Et puis une semaine dédiée à l'allaitement maternel en Nouvelle-Calédonie et dans le monde. À cette occasion, la province sud organise plusieurs rencontres en partenariat avec l'association SOS Allaitement. Et aujourd'hui, c'est à Boulari que les parents ou futurs parents pouvaient venir poser leurs questions, Charlotte Coulson.
Et oui, car moins de 50% des nourrissons de moins de 6 mois sont exclusivement nourris au sein. Pourtant, l'allaitement est l'un des moyens les plus efficaces de garantir la santé et la survie de l'enfant, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, d'où l'importance de consacrer chaque année une semaine à l'allaitement maternel. Des rendez-vous gratuits sont organisés au Mont d'Or, à Païta ou encore à Dimbéa-sur-Mer. Ce matin, Clémence et Natacha de l'association SOS Allaitement étaient au CMS de Boulari pour répondre aux questions des familles et aussi rappeler les bénéfices de nourrir son bébé au sein.
Pendant cette semaine, on va être disponible dans plusieurs endroits justement pour être là pour les parents qui ont des questions, des demandes en particulier autour de l'allaitement. Il y a beaucoup de questions qui se posent, souvent à la mise en place, qu'est-ce que je peux faire, comment l'autre parent peut s'impliquer, si je veux pas allaiter longtemps, comment je fais pour sevrer, ou si je veux justement que l'allaitement dure, comment je peux le faire perdurer. D'ailleurs, l'OMS recommande un allaitement jusqu'à 2 ans.
En fait, il y a beaucoup de bienfaits sur l'allaitement, il y a à la fois les bienfaits pour la mère, on dit que ça réduit le nombre de cancers du sein. Ça permet aussi de récupérer plus rapidement sa ligne après un accouchement. Et chez l'enfant, ça donne, comme on a dit, beaucoup en niveau immunité et lien mère-enfant. Ça rassure en fait l'enfant, ça crée un sentiment de sécurité qui va l'aider plus tard en fait à prendre confiance en lui.
Sur place, une maman accompagnée de sa petite fille de tout juste 1 an. Comme beaucoup de parents, elle appréhendait sa naissance et le début de l'allaitement, mais est aujourd'hui très contente d'avoir pris la décision de lui donner le sein.
Pour moi, ça s'est passé merveilleusement bien. Ça se passe encore merveilleusement bien parce que je l'allaite toujours. Et comme on peut le voir, c'est un beau bébé avec de jolies cuisses. Mais oui, je trouve que c'est important en fait parce que j'ai lu beaucoup de podcasts, de petites choses sur Internet quand j'ai accouché. Et ça m'a fait très peur. Donc heureusement qu'il y a des associations comme SOS Allaitement qui peuvent répondre à nos questions pour nous aider. Parce que les choses qu'on lit parfois sont pas toujours vraies. Et c'est vrai que du coup, quand on a des réponses, ça nous soutient dans la continuation de ce qu'on fait.
Et de nombreuses rencontres sont organisées au long de la semaine dans le Grand Nouméa, mais aussi à la bibliothèque de Bouraille ce mercredi. Et samedi, l'association clôture cette semaine consacrée à l'allaitement en organisant un après-midi au Jardin des Parents au Motorpool de 13h à 17h.
Il est midi, vous écoutez Radio Rythme Bleu.